Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au micro Lievin Bouinga. Ça y est, le lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé est effectif. La cérémonie se tient à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Détail dans ce journal. La reprise des cours également une réalité dans la province du Sud Kivu. Les professionnels de la CRE ont résolu de reprendre le chemin de l'école après 2 mois de négociations avec le gouvernement sur l'amélioration de leurs conditions salariales. Plus de 3500 participants attendus aux États généraux de la justice, un rendez-vous qui a pour thème « Pourquoi la justice congolaise est malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Le secrétaire général de l'intersyndicale des magistrats, Henri Dianda, nous en parle, il est notre invité. Encore une fois, bonjour. Processus de Luanda, lancement officiel ce mardi 5 novembre à Goma du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. La cérémonie se tient à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Sous la direction de l'Angola, ce mécanisme vise à assurer un suivi du cessez-le-feu conclu récemment entre les deux États, mais aussi des accusations mutuelles d'agression et d'attaque entre le Rwanda et la RDC. Le point avec Sifa Maguro.
La grande barrière entre Goma et Gisenyi est restée fermée à tout mouvement migratoire toute la matinée de ce mardi à la suite de cette cérémonie officielle entre la RDC et le Rwanda. Tous les passagers étaient orientés vers la petite barrière. Cette structure régionale, lancée officiellement ce mardi, devra intégrer les officiers des liaisons congolais et rwandais en charge de veiller à un suivi impartial de la violation du cessez-le-feu, mais aussi des accusations mutuelles d'agression et d'attaque entre le Rwanda et la RDC. La mise en place du mécanisme de vérification est consécutive aux conclusions de la réunion des experts de défense et sécurité du 31 octobre dernier à Luanda. La RDC est représentée à cette cérémonie par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, qui est arrivée ce mardi matin à Goma. Signalons que sur terrain, pendant ces temps, des combats opposent toujours les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais aux FARDC et groupes armés Wazalendo en violation constante de ces accords de cesser les feux. Depuis la Grande Barrière, Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
La situation demeure tendue ce mardi dans le village de Kaira, c'est dans la chefferie des Bachali, territoire de Masisi au Nord Kivu. L'entité a été le théâtre toute la journée hier lundi de violents combats opposant les rebelles du M23 à la coalition de groupes armés ANCDH de Jean-Marie et APCLS de Janvier Karahiri. Je pense que j'ai bien prononcé, délogé du centre de Kaira hier matin. Ces combattants Wazalendo sont revenus à la charge le soir, selon les sources locales. Jusque tard dans la soirée, des tirs étaient encore entendus dans cette zone vidée de ses habitants. Alors qu'une accalmie s'observe à Kaira, des tirs nourris sont entendus depuis la matinée ce mardi dans les villages de Bouérou et Ngundu, un peu plus au nord de Kaira. Ils opposent les rebelles M23 à cette même coalition des Wazalendo, disent nos sources. Le vice-ministre de la Défense nationale lance un appel à la jeunesse de l'Ituri à la prise de conscience pour la défense de la patrie face aux ennemis de la nation. Sami Adubango a exhorté les jeunes à ne pas soutenir des groupes armés locaux et étrangers ou se laisser manipuler par des personnes mal intentionnées. Il a dit lundi à Bunia lors de la cérémonie du lancement de la campagne de l'éveil patriotique de jeunes pour la paix. Les propos de Sami Adubango ont été recueillis par Sadiki Aboubakar.
À cette période de grands défis sécuritaires, la République démocratique du Congo a plus que jamais besoin de notre énergie, de votre patriotisme et de votre unité. La jeunesse est le bouclier de notre nation, la barrière contre ceux qui cherchent à affaiblir notre paix et notre dignité. Ce pays appartient à la jeunesse et c'est ensemble que nous les protégerons. Ne laissez personne, notable ou politicien, qui qu'il soit, affaiblir votre attachement à la patrie. L'armée congolaise a besoin de vous. N'allez pas dans les groupes armés communautaires. Défendez et construisez notre belle patrie.
Voilà, au Nord Kivu, le gouvernement provincial vient de renouveler le stock de vivres pour les détenus de Muzenze, la prison centrale de Goma. C'était hier lundi que la conseillère principale du gouverneur militaire qu'accompagnait le maire de Goma a remis entre les mains du directeur adjoint de cette institution carcérale la nourriture achetée par la province. Suivez ce reportage.
L'autorité provinciale, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, prend l'engagement de répondre aux appels de détresse des détenus qui subissent des conditions de vie extrêmement difficiles. C'est en substance le mot des circonstances de Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur militaire chargée des affaires sociales, pour accompagner la remise des vivres en faveur des locataires de Muzenze. Dans l'eau, on trouve 200 sacs de farine de maïs, 10 sacs de haricots, 10 bidons d'huile, 5 paquets de sel et 10 cartons de tomates concentrées. La disette dans la prison centrale de Muzenze dure depuis près de 4 mois, période qui coïncide avec le désengagement de la quasi-totalité des partenaires humanitaires qui prenaient en charge l'alimentation et les soins de santé des détenus. Depuis lors, chaque prisonnier devrait vivre de la charité ou de la solidarité de ceux de l'heure qui reçoivent de la visite familiale. Cette intervention du gouvernement provincial du Nord Kivu constitue une réponse significative aux besoins urgents de la prison de Muzenze, a reconnu le directeur adjoint de cette institution. Il rappelle par cette occasion qu'il n'y a pas de médicaments à l'infirmerie. Pour ce gardien de Muzenze, il faudrait songer à désengorger cette maison carcérale. Chris Mukand, Radio Kapi, Goma.
Ah, vous avez bien reconnu la voix de Chris Mukand. Et puis, le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado Kabambare, demande à l'autorité du Maniema de publier régulièrement le rapport des fonds collectés à travers les taxes conventionnelles. Yango Kachelewa le dit dans le cadre de la transparence sur la gestion des fonds issus des taxes conventionnelles avec la Fédération des entreprises du Congo. Ces propos sont recueillis par Florence Kizalunga.
Nous interpellons aussi la conscience du gouverneur de la province de ne pas diviser la société civile et la FEC, de manière que la FEC doit afficher les montants perçus d'une manière ponctuelle, d'une manière régulière, les montants de la taxe conventionnelle, à savoir aussi les organisations qui sont en train d'exécuter ces travaux, telles que la TED au niveau de Tronçon, Muyengo, Kail. Son bureau doit être ici et le directeur doit être connu d'une manière officielle pour éviter les erreurs de l'office des routes où vendredi, on a mis le chef de brigade Kasongo Wamaza Salamabila Penemende dans la prison centrale en tant que présumé auteur des détournements des fonds de construction de la route.
Éducation, c'en est vraiment fini avec la grève des enseignants du cycle primaire dans la province du Sud Kivu. Les professionnels de l'ACRE ont résolu de reprendre le chemin de l'école depuis hier, 4 novembre 2024. Cela après 2 mois de négociations avec le gouvernement sur l'amélioration de leurs conditions salariales. Les enseignants promettent de récidiver au cas où les promesses ne sont pas tenues dans les 3 mois qui suivent. Jean Kassami a fait le tour dans quelques écoles de Bukavu. Vous suivez.
Les élèves et les enseignants ont répondu à l'appel dans la classe de 6e année à l'école primaire 8e CEPAC Ngouba. Ici, la matière est prise au sérieux.
Nous sommes en train d'étudier le calcul du prix d'achat. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le prix d'achat?
On va faire prix de vente moins bénéfice.
Non, ça sera
2000 francs moins 500 francs.
Tu te gardes combien de calcul maintenant?
Le président urbain des comités des parents des écoles conventionnées protestantes 8e CEPAC met en garde les gestionnaires qui exigeraient le paiement de la prime aux parents d'élèves. Louvouluolo Mao.
Ça ne se fera pas. L'association des parents n'est pas là pour freiner les décisions du chef de l'État. La gratuité, c'est la gratuité. L'école, en convention avec les parents, ce comité scolaire sera traduit en justice.
D'autre part, l'archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroy, invite les enseignants au sens des sacrifices, tout en reconnaissant les conditions de vie difficiles que ces derniers traversent. Il l'a dit hier au cours de la messe à l'intention des gestionnaires et enseignants des écoles conventionnées catholiques. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Un incendie s'est déclaré ce lundi au lycée Tchodo, l'une des grandes écoles du réseau catholique de la ville de Lubumbashi. Si les élèves en sont sortis indemnes, on déplore cependant de nombreux dégâts matériels. D'autres détails avec le commandant de la brigade anti-incendie de la ville de Lubumbashi, David Bidbou. Il a conduit une équipe de sapeurs-pompiers sur le lieu du drame. Il est au micro de Jean Gandou.
Le réfectoire était sensiblement affecté par les flammes qui a commencé à se propager. Comme c'était à l'étage, il fallait déployer notre garniture jusqu'à faire monter et placer l'échelle pour que les pompiers puissent grimper sur le montant et voir de plus près le feu qui saccageait le lycée Tchondo. C'est toujours le courant électrique qui est à la base. Pourquoi ? Parce que les installations sont des vieilles installations, faites depuis l'époque coloniale. Il y a des petits ronds qui circulent dans des plafonds, il y a des chats, il y a des souris, jusqu'à ce que les fils conducteurs auront des plaies au risque de créer de courts-circuits avec notre courant. Tout moment de coupures intempestives, le lycée Tchodo est le 154e cas d'incendie pour cette année 2024. Au cours des lits de Mons, ceux qui étaient dans cette salle sont partis en fumée. Merci à Dieu parce que tous les élèves, on les a évacués calmement, sont bel et bien sortis indemnes.
Nous en arrivons à cette dramatique nouvelle en provenance du Tanganyika. Tenez, le reste d'une fillette de 8 ans ont été repêchés dimanche dernier au niveau du village Mizimwe, à environ 30 km de Kabimba, territoire de Kalemie, sous le littoral du lac Tanganyika. D'après des témoins, la victime a été happée par un crocodile samedi dernier. C'est ne pas pour la première fois que des crocodiles font des victimes dans le territoire de Kalemie, n'est-ce pas, Paulin Munanga?
Effectivement. Cette fillette est la quatrième victime des crocodiles dans les territoires de Kalemie depuis le début de cette année. En août dernier, les restes d'une femme et de son enfant ont été retrouvés au village Kilindila sur le littoral du lac Tanganyika. D'après l'administrateur du territoire, les victimes se rendaient au lac pour puiser de l'eau quand elles ont été happées par un crocodile. Au mois de février dernier, un corps sans vie d'un enfant de 15 ans a été repêché sur le lac Tanganyika. Des témoins ont rapporté que la victime s'est baignée au bord du lac Tanganyika lorsqu'elle a été happée par un crocodile. Au cours de l'année 2023, le bilan des attaques de ces prédateurs fait état de 6 morts dont 2 corps n'ont jamais été retrouvés. Il y a eu aussi des personnes grièvement blessées. Face à cette situation, l'administrateur du territoire de Kalemie sensibilise régulièrement ses administrés que c'est dangereux de fréquenter le lac Tanganyika après 17 heures. Il a déjà envoyé des correspondances à la hiérarchie pour le refoulement de ces crocodiles, mais il n'y a pas de suite. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et puis cette alerte concernant la nationale numéro 1 dans son tronçon Kinshasa-Kikwit-Kassai en passant par la province du Kwango. Cette partie est de nouveau menacée de coupure en pleine ville de Kenge, chef-lieu du Kwango. Et le village Kinzwanga, non loin du pont Kwango, court le même risque. La situation s'est aggravée après les dernières pluies. Le président de l'Assemblée provinciale qui lance ce cri de détresse dit avoir réuni les services provinciaux à ce sujet. À l'issue de cette réunion, il est décidé de déployer une équipe à Kinshasa pour un plaidoyer urgent auprès du gouvernement central afin de décanter la situation. Irène Bomaluzolo pour plus de détails.
C'est précisément à quelques mètres de la statue dénommée Femme Pléresse au quartier Kikwit, en pleine ville de Kenge, qu'il s'observe un risque imminent de coupure de la RN1, une route d'importance économique très capitale. Situation consécutive à une grosse tête d'érosion qui progresse vers la chaussée à la suite des récentes pluies abondantes abattues sur cette ville. Le président de l'Assemblée provinciale du Kwango s'est rendu sur les lieux pour s'inquiérir de la situation. André Massala.
C'est l'érosion qui est en train de menacer la route numéro 1, donc Kinshasa jusqu'à Kikwit, dans les Grands Kassai. Si rien n'est fait, il y aura cassure. Il n'y aura plus de voies accessibles sur cette route-là, donc il y aura un blocage total. Nous avions essayé un peu de discuter là-dessus avec les ingénieurs techniciens, une réunion d'urgence. Nous avions pris une décision qu'il y ait une descente urgente à Kinshasa avec le gouverneur pour qu'il puisse voir les ministres nationaux des ITP. C'est pourquoi nous prions au ministre national des ITP d'intervenir rapidement parce que les dangers imminents vaut mieux prévenir que guérir.
Rappelons que cette même route était aussi sur le point de se couper au niveau du village Kinzwanga, toujours au Kwango, où les travaux de réhabilitation sont en cours d'exécution par l'OVD. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Encore une urgence, cette fois-ci à Kinshasa. Le ministère des Infrastructures, à travers ses services, notamment l'OVD et l'entreprise chinoise Grec 8, accusé de créer une érosion dans un ravin dans le quartier Mba, la commune de Selembao. Les populations de ce quartier longeant la route Matadi nationale numéro 1 à hauteur de l'arrêt Zappé condamnent la suspension des travaux de construction d'un collecteur des eaux des pluies destiné à freiner les menaces de coupure de cette importante voie. Avec la reprise des pluies à Kinshasa, ce collecteur inachevé, avec ses eaux recueillies, constitue désormais un danger permanent contre leur habitation, ainsi que la nationale numéro 1, s'indigne-t-il. Un reportage de Billy Ivan Lutumba.
Construire sans achever, c'est détruire. C'est vraiment très regrettable. Si le gouvernement censé donner l'exemple, laisser achever les travaux de construction d'un collecteur qui doit sauver la route numéro 1 au niveau de la Résapé.
Sous des gouttelettes depuis de ce mardi matin, un regard observateur impuissant sur ce qui fut il y a 6 mois le chantier des luttes anti-érosives quartier Mbala, commune Selembao. Monsieur Wakadiassa, un résident, regrette tout le temps perdu de la saison sèche. Pourtant, moment propice pour parachever la construction de ce grand collecteur.
Nous ont promis, après l'interruption des travaux, de revenir à la saison sèche pour continuer les travaux. Ils ne sont jamais revenus. C'est vraiment irresponsable de la part des
les Chinois et l'OVD nous ont créé une érosion. Dans une érosion, s'indigne un jeune habitant et cet autre propriétaire de parcelle s'interroge sur la reprise des
là
travaux.
Là où ils avaient arrêté leurs travaux, il y a encore une érosion qui se crée. L'eau qui est en train de se verser là en bas, c'est comme s'il y a une érosion dans une érosion.
Il y a déjà des menaces de maisons avec des fissures. L'érosion s'étend vers le prince. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont venir.
En informel, une source de l'OVD déplore et regrette aussi que ceci n'est qu'un cas parmi tant d'autres. La plupart des chantiers préfinancés par les entreprises chinoises connaissent un arrêt faute de financement de la part du gouvernement.
Actualité internationale.
Alors que les Américains sont appelés à désigner le 47e président de l'histoire des États-Unis ce mardi 5 novembre, les derniers sondages donnent Donald Trump et Kamala Harris au coude à coude. Une longue attente qui s'annonce. Les citoyens américains sont appelés à voter ce mardi 5 novembre pour élire ce 47e président des États-Unis, successeur de Joe Biden. Mais contrairement à la traditionnelle annonce à 20h en vigueur dans l'Hexagone, aucune heure n'est fixée pour l'annonce des résultats aux États-Unis.
L'invité.
Il se tient du 6 au 13 novembre les travaux des États généraux de la justice sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Les magistrats représentés par leur syndicat disent attendre beaucoup de ce grand forum sur des réformes non achevées, notamment la non-application des résolutions des États généraux de 2015. Pour en parler, Radio Capi reçoit le secrétaire général de l'intersyndical des magistrats et président du syndicat chrétien des magistrats du Congo, Henri Dianda. Il s'entretient ici avec Jeff Ngoy.
Henri Dianda, bonjour.
Oui, bonjour.
Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? Vous, en tant que magistrat syndicaliste, vous pouvez comprendre le choix de ces thèmes.
Des états généraux, c'est pour diagnostiquer de l'état de la justice aujourd'hui, comme ça l'a été en 2015, comme ça l'a été avant 2015, donc avec les états généraux qui ont eu lieu
En 2004,
il y a eu aussi des travaux comme ça qui a dû produire un plan d'action en 2007, donc un plan d'action de 2007 à 2012 qui devait pouvoir régir la politique nationale de la justice. Et ben, je crois qu'après que nous ayons ce document-là, le document qui a eu en 2007 sur la politique nationale, sur la justice du pays, en 2012, il était arrivé à son terme. Je crois que 3 ans après, on a considéré qu'il y avait encore à faire et que ce plan d'action-là n'avait pas donné ou le résultat qui avait été escompté et qu'on a estimé qu'il fallait qu'on puisse faire des états généraux. Et c'est aux bases des états généraux qu'il y a eu en 2015 ils ont pu tirer plus de 350 résolutions pour avoir en 2017 carrément un plan. Pour aujourd'hui, s'il y a encore des états généraux, c'est-à-dire 9 ans après, nous estimons que le magistrat suprême, qui est le chef de l'État, a estimé, parce que c'est lui qui a parlé de la maladie de l'appareil judiciaire, c'est dire qu'il a voulu qu'on puisse poser encore un diagnostic ou bien évaluer ce qui avait déjà été fait ou bien l'état de la justice actuelle.
Vous avez évoqué les états généraux de 2015 qui avaient produit un document de politique et de réforme de la justice pour la période allant de 2017 à 2026. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire le même travail?
Je crois que la politique judiciaire est définie par le gouvernement et que, bon, on a vu qu'il y avait des faiblesses par rapport à ce document-là et qu'il fallait peut-être le réévaluer pour que l'on puisse avoir un autre document qui soit un peu plus efficace pour arriver à donner des solutions aux problèmes qui avaient été posés à l'époque. Parce que je crois que la grande thématique lors des assises de 2015, c'était sur l'accès à la justice. Mais également un point particulier sur la moralisation des acteurs de la justice. Donc si on doit dire, c'est une chaîne. Hein. Il ne s'agit pas seulement des magistrats quand on parle de la justice. Tous les intervenants, même les organisations non-gouvernementales, hein, qui sont des partenaires aussi qui interviennent. Donc vous comprenez. Donc si aujourd'hui on dit, on veut dire, on va aux états généraux, nous disons c'est qu'on a considéré que bon, il y a des faiblesses quelque part, mais qu'il fallait voir comment est-ce qu'il arrivait à donner une thérapie. Je sais que bon, en 2015, il y avait 8 thématiques qui avaient été exploitées pour que ça puisse fondre et arriver à donner peu près de 350 résolutions.
Il y a par exemple la politique pénitentiaire qui était bien définie en 2015 avec la création d'un organe de gestion de nos prisons qui était prévu.
La DGAP, voilà. Écoutez, mais par exemple, vous avez vu que nous avons eu des problèmes ici avec nos prisons. Excusez-nous, nous avons fait partie de ce groupe thématique sur le pénitentiaire. Mais aujourd'hui, on sent que c'est vraiment un besoin. Les textes sont pratiquement prêts, à ce que je sache. En ce qui concerne la DGAP, la loi devant organiser ces directions-là qui, en principe, doivent être implémentées au niveau de toute la République. Mais qu'on aille sur le plan pénitentiaire, voilà des problèmes qu'il y a, qu'on puisse aller d'abord avec cette loi-là. Ça va nous aider à ce que nous ne puissions pas chaque jour crier comment est-ce que le magistrat du parquet n'a pas fait son travail, où il y a des libérations conditionnelles qui doivent être préparées ici et là. On commence à chercher des responsabilités à gauche et à droite. Voilà, par exemple, des problèmes qu'il y a. Le cadre de concertation que nous disons aujourd'hui entre le ministère de la Justice et le CSM, je crois que ça va être très formel. Aujourd'hui, on sent encore qu'il n'y a pas tellement des interactions.
Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux de la justice?
Lorsque, au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État, qui est magistrat suprême, dit que la justice, son pays est malade, je crois qu'il sait de quoi il s'agit. Il sait où se trouvent les problèmes. Il doit savoir, parce qu'il dit aujourd'hui qu'on puisse poser le diagnostic. Au bout du diagnostic qui sera encore posé aujourd'hui en 2024, je crois qu'à partir de ça, le chef de l'État, je crois, tirera des conséquences sur base de ce qui va lui être présenté en sa qualité de magistrat suprême. Nous n'allons pas revenir, il y a des problèmes du budget et du Conseil supérieur de la magistrature, du pouvoir judiciaire par exemple. Un pouvoir, on dit un pouvoir qui n'est pas autonome dans son budget. Comment est-ce qu'il est à mesure de tenir des investissements? Parce qu'au-delà des salaires qui sont payés aux magistrats, mais il y a quand même d'autres choses qui peuvent être faites. Il y a des bibliothèques qui n'existent pas. Il y a des bâtiments qui, lorsque vous allez dans l'arrière-pays et que vous n'allez pas trouver, comment est-ce qu'on va arriver à résoudre tous ces problèmes-là? Je vous ai posé le problème ici des magistrats, de leur transport et tout ça. Ça n'existe pas. La formation continue des magistrats, ça n'existe pas. Il faudrait seulement que nous puissions avoir des partenaires étrangers qui viennent pour organiser des ateliers pour la mise à niveau des magistrats. C'est non. Il faut qu'il y ait une formation continue. Et cela sort d'où? Comment cela doit pouvoir être fait? Je crois qu'au bout de ces réflexions-là, si on arrive à poser un diagnostic sérieux, je crois qu'on peut remettre ces résolutions-là sur la table du chef de l'État, qui est magistrat suprême, pour voir dans quelle mesure il peut orienter les choses, pour voir la justice de son pays être guérie ou bien soignée, si on devait le dire comme ça.
Henri Dianda, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jeff.
Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujangwe et à Polydor Basunga. Bon après-midi à tous.